Bonjour à tous.
Avec hier des manifestations contre la réforme des retraites dans plusieurs villes de France, à Paris, le cortège a rassemblé 4500 participants selon la police et parmi eux, de nombreux gilets jaunes. Les autres titres, Alexis.
Un attentat particulièrement dévastateur hier en Somalie. La voiture piégée qui a explosé dans un quartier commerçant de Mogadiscio a fait au moins 79 morts. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Le club de foot de Monaco change encore d'entraîneur. Leonardo Jardim est remplacé par Robert Moreno. Jardim qui était sur le rocher depuis janvier après un premier limogeage en octobre 2018. Il faut suivre.
L'invité à partir de 8h20, ce sera le chef pâtissier Philippe Conticini, auteur de Cochon de lait, le goût de l'enfance. Il raconte son parcours, sa quête du goût. Le livre paraît aux éditions du Cherche Midi. Rendez-vous à 8h20.
France Inter.
Convergence des luttes hier dans plusieurs manifestations partout en France. À Paris, militants syndicaux et gilets jaunes ont convergé en direction de la place du Châtelet. Ils étaient 4500 selon la préfecture de police. Même dispositif à Nancy, par exemple, où la manifestation des opposants à la réforme des retraites a été ralliée par plusieurs dizaines de gilets jaunes. Le reportage de Lucas Valdener.
Deux couleurs dans le ciel bleu de Nancy, le rose du syndicat solidaire et le jaune des gilets en Lorraine. Raymond tient les deux drapeaux dans chaque main.
Il y a des gens de tous ces mouvements en lutte qui se sont parlé et qui ont voulu que ça se passe comme ça. Et on y arrive, et c'est pas fini.
Désormais, les gilets jaunes assument, et c'est ça la nouveauté, selon Anne, militante à Nancy.
Ce qui a changé, c'est plus on le montre. Nous, au départ du mouvement des gilets jaunes, beaucoup de syndicalistes étaient présents. Mais enfin, la majorité des gilets jaunes ne voulaient pas montrer le côté syndicaliste. Par contre, on avance, on évolue et on se rend compte que la convergence était nécessaire.
Une prise de conscience tardive également du côté des syndicats, d'après Thomas de la FSU.
Le mouvement syndical a peut-être effectivement mis un peu le temps avant de prendre la mesure de ce qui était en train de se jouer dans le pays, parce que ce qui se traduit quand même depuis un an, c'est un malaise profond. Et la convergence, on ne l'a pas forcément cherchée, on ne l'a pas forcément voulu, mais de fait, elle est là.
C'est les syndicats qui enfin se sont réveillés.
Sophie est infirmière au CHU de Nancy. Sur son dos, un gilet rouge et jaune.
Ça fait des années qu'on est dans la rue et il n'y a pas d'autre choix qu'être ensemble. Peu importe la couleur de nos gilets finalement. Ça suffit de crever, d'avoir du mal à finir les fins de mois. Voilà, il est grand temps que les choses elles changent. Et elles sont en train de changer aujourd'hui et ça laisse vachement d'espoir pour la suite.
La suite, c'est le 9 janvier avec un nouvel appel à la mobilisation partout en France.
Et dès aujourd'hui, la grève contre la réforme des retraites se poursuit. La RATP annonce un trafic quasi nul puisque 13 des 15 lignes de métro parisiennes sont fermées. À la SNCF, il y aura en moyenne aujourd'hui 3 TGV sur 5 et 4 TER sur 10. Depuis bientôt un mois, la fréquentation dans les gares est évidemment bien moindre que d'habitude. Alors forcément, les commerçants basés dans les gares ou à proximité voient leur chiffre d'affaires chuter. Exemple à Dijon où la boulangerie Paul fait rarement le plein ces jours-ci. Damien y travaille, il répond à Christophe Tournée de France Bleu Bourgogne.
En moyenne, le chiffre d'affaires est divisé par 2 voire par 3. Quand vous avez un ou deux départs par heure, automatiquement ça se ressent. En temps normal, on a à peu près 1000 à 1100 tickets jour. Et là, on est passé à 500, 550. Pour l'instant, on a évité le chômage partiel, mais avec l'accord du personnel, on a mis quand même pas mal de monde en vacances. On limite le personnel, en fait, hein, automatiquement.
Vous avez peur que cette grève dure encore longtemps ?
On espère que non, parce que nous, le problème, c'est qu'on va être obligé de mettre des gens en chômage partiel, hein, donc ce qui n'est pas l'idéal pour eux ni pour nous.
Une attaque à l'arme blanche au domicile d'un rabbin cette nuit près de New York aux États-Unis. Il y a 5 blessés qui ont été hospitalisés. 2 d'entre eux seraient dans un état critique. Un homme armé d'une machette a fait irruption dans la maison d'un rabbin orthodoxe alors que plusieurs dizaines de personnes se trouvaient là pour célébrer la fête juive de Hanouka. La police de New York annonce l'arrestation de l'assaillant.
En Somalie, le bilan, toujours provisoire, de l'attentat de Mogadiscio hier matin est de 79 morts et une centaine de blessés.
L'attaque à la voiture piégée s'est produite dans un quartier très animé de la capitale somalienne, tout près d'une université. Une attaque qui n'a pas encore été revendiquée, même si Nadine Hemstein, tous les regards se tournent vers les Chebab, ce groupe islamiste lié à Al-Qaïda.
Le maire de Mogadiscio s'attend à un bilan très lourd. Il craint le pire, l'attentat a touché que des civils, la plupart des étudiants. Le président somalien désorienté a fustigé les auteurs de l'attaque. Je cite « Cet ennemi s'emploie à mettre en œuvre la volonté destructrice du terrorisme international. Tout ce qu'ils font, c'est détruire et tuer », fermer les guillemets. Mais les autorités et l'armée somalienne n'ont pas vraiment les moyens de riposter. Gérard Prunier, historien, spécialiste de la Somalie.
Ce sera comme d'habitude, on va envoyer une colonne de gens de la Bissomme qui tueront quelques civils, faute de mieux, parce qu'ils ne sauront pas qui est responsable. Et puis d'ailleurs, comme il n'y a plus d'armée, à la limite, on peut guère la tuer, parce que il faudrait encore qu'elle opère. En général, elle se cache, et les combats contre les Chebabs, ce sont des étrangers qui le font, des Ougandais ou des Éthiopiens, qui sont dans le cadre de l'alliance AMISOM de l'Union africaine. C'est-à-dire que finalement, les gens qui font les frais de la guerre, qu'ils soient tués par les Chebabs ou par les Américains ou par l'AMISOM, c'est presque toujours des civils.
La Turquie a confirmé que plusieurs de ses ressortissants figurent parmi les victimes de l'attentat de Mogadiscio.
Nadine Epstein. Un rassemblement contre les violences faites aux femmes hier à Clermont-Ferrand. Le collectif Oser le féminisme est venu rappeler que chaque année 148 femmes meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Léo Corcos, les participantes au rassemblement ont rendu hommage à leur consœur chilienne et à leur chanson emblématique.
Le violeur, c'est toi, l'État oppresseur et un macho violeur. Des mots forts pour une situation problématique. Au Chili, le pays est plongé en pleine crise sociale. Des policiers sont accusés d'agression sexuelle. En France, 148 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Leïla Chetti est la coprésidente d'Oser le féminisme dans le Puy-de-Dôme.
On suit l'exemple extraordinaire et fort puissant des Chiliennes, qui sont vraiment des héroïnes qui ont un courage extraordinaire. Comme dans plein de pays du monde, les femmes se soulèvent. Il y a un mouvement féministe qui est en train de prendre de l'ampleur et forcément on en fait partie.
Cette action féministe a résonné jusqu'au Chili, ou presque. Hernan est chilien, il est né à Valparaiso où la chorégraphie a été conçue. Il se baladait place de Jaude avec son compagnon quand il a entendu les paroles en espagnol. Il s'est senti fier.
C'est comme si j'étais chez moi, mais dans le monde entier. Beaucoup de femmes chantent ces paroles. Ça devrait être l'hymne international pour les femmes. Et ce n'est qu'un début. Les femmes vont faire de plus grandes choses encore très bientôt.
Les féministes clermontoises comptent refaire une action du même genre, toujours avec cette chorégraphie, en février 2020.
Léo Corcos de France Bleu Auvergne.
Le prochain Open de tennis à Melbourne, il faudra faire sans Andy Murray.
Oui, le tennisman britannique l'a annoncé cette nuit. Il est forfait pour l'Open d'Australie en raison d'une blessure à l'aine. Nouveau coup dur donc pour l'ancien numéro 1 mondial, aujourd'hui âgé de 32 ans, qui revenait progressivement à son meilleur niveau ces derniers mois, après deux années quasi blanches pour cause de lourdes opérations à la hanche. Un mot de football aussi, avec du changement sur le banc monégasque. Depuis hier soir, Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de l'ASM. Le Portugais est limogé pour la deuxième fois en 14 mois. La première fois, c'est Thierry Henry qui l'avait remplacé. Cette fois-ci, c'est l'Espagnol Robert Moreno qui pose ses valises à Monaco. Moreno, 42 ans, a été pendant 3 saisons entraîneur adjoint à Barcelone avant de prendre brièvement les commandes de l'équipe d'Espagne. Las Vegas va bientôt se doter d'une nouvelle attraction. Un tunnel sous le Strip, l'artère principale de la ville, va permettre à des voitures sans chauffeur de circuler à près de 200 km/h. Derrière ce projet fou, le milliardaire Elon Musk est toujours partant pour ce genre de défi et dont l'objectif à terme serait de mettre fin aux embouteillages dans les grandes agglomérations du monde. Elon Musk l'a annoncé hier soir sur Twitter, son tunnel du futur sera prêt dans les mois qui viennent, Loïc Piala.
Le centre des conventions de Las Vegas est déjà immense et il va continuer à s'agrandir. Alors, pour limiter le temps de marche des visiteurs, le centre a fait confiance à Elon Musk. Depuis le mois de novembre, The Boring Company creuse 2 tunnels d'1,5 km chacun. Ils relieront les 2 extrémités du site. Temps de trajet, 1 minute contre 1/4 au minimum à pied. Le projet, d'un coût de 50 millions de dollars, permettrait de transporter 4500 personnes par heure. Musk annonce que l'infrastructure sera opérationnelle dans les mois qui viennent, mais il a aussi tendance à ne pas tenir ses propres délais. Plus raisonnable, Las Vegas prévoit une ouverture pour début 2021. Le projet servira de test à la technologie de Musk, dont des versions plus ambitieuses sont attendues à Chicago et Baltimore. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Il est 7h09, je vous rends le micro, Eric.
Et c'était le journal d'Alexis Demeyer. Le temps, ça gèle hein, cette nuit. Le retour des gelées ce matin, Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait. En dehors des côtes et des régions méridionales, les températures affichent actuellement 0 à moins 2 degrés en général, jusqu'à moins 4 sur la plaine d'Alsace, avec du brouillard parfois givrant et des nappes de grisaille plus répandues en ce début de journée au nord de la Seine, sur le centre, le Val-de-Saône, le Lyonnais, l'Alsace et au sud de la Garonne. Alors aujourd'hui, persistance d'un temps calme et sec, avec sur la plupart des régions région un très bon ensoleillement dès ce matin, sauf près de la Garonne, du Val-de-Saône, sur le Lyonnais, le centre Val-de-Loire et l'Alsace, où le gris pourra persister plus longuement. Et puis sur les côtes méditerranéennes, là le ciel sera beaucoup plus chargé qu'hier. Sous les éclaircies, les températures vont grimper entre 6 et 10 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 10 à 15 au sud, mais seulement entre 2 et 4 sous les grisailles persistantes.